Place publique.
Les statistiques jurassiennes et bernoises dévoilées cette semaine le montrent. Les jeunes au volant provoquent le plus d'accidents avec des conséquences parfois fatales. Se pose la question de la prévention. On se demandera dans un instant comment sensibiliser au mieux les automobilistes entre 18 et 24 ans pour les faire changer de comportement. Pouvoir se faire soigner en français quand on va à l'hôpital à Berne ou à Bienne, eh bien ça ne va pas de soi, à en croire les députés francophones du Grand Conseil bernois. Ils ont demandé en vain cette semaine que la loi soit mieux respectée. Et pourtant, le bilinguisme au milieu hospitalier, c'est possible. Nous verrons ce que fait l'hôpital fribourgeois en la matière. Et si l'on se passe des mots, il nous reste le mime. Notre chroniqueur Barnabé nous le prouvera à 18h32, après les titres. Enfin, nous prendrons le large en haute mer. Les océans sont l'objet de toutes les convoitises pour les ressources génétiques qu'ils renferment. De quoi craindre une exploitation intensive et nocive pour notre écosystème. Une chercheuse neuchâteloise nous parlera des discussions en cours à New York sur la question.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir, vitesse inadaptée. Inattention, et c'est le drame. Dans le Jura et dans le canton de Berne, les dernières statistiques routières montrent que les jeunes entre 18 et 24 ans demeurent dans la catégorie de conducteurs la plus à risque en matière de sécurité routière, avec parfois des drames à la clé. Et pourtant, les actions préventives ne manquent pas à l'initiative de la police, notamment au bord des routes ou dans les écoles. Alors comment faire mieux? Deux invités pour en parler. Philippe Egertz-Villers, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député PCSI au Parlement jurassien et puis vous avez interpellé en cette qualité récemment les autorités sur ce sujet. Avec nous également Michael Kohler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du service de la jeunesse et action communautaire de Moutier. Vous allez nous parler d'un concept de prévention inédit que vous avez mis sur pied avec plusieurs jeunes conducteurs. Mais pour commencer, comment vous, Michael Kohler, vous analysez le fait que dans les cantons du Jura et de Berne, à l'inverse de Neuchâtel, ce sont les jeunes conducteurs qui sont surreprésentés en matière d'accidents de la route?
Je ne me l'explique pas vraiment, en fait. C'est assez difficile de donner des indications. Ce qu'on peut dire en matière de statistiques, et puis c'est un petit peu notre position au départ ici à Moutier, concernant le projet dont on parlera peut-être après, c'est-à-dire que prendre position, dire voilà, on met l'accent sur la donnée jeune lors du relevé de statistiques des accidents, alors qu'on pourrait relever plein d'autres données, comme le type de voiture, l'état des routes, etc., eh bien ça donne déjà une indication et ça met le focus sur une catégorie de personnes qui risque d'être stigmatisées. Voilà.
Donc pas seulement regarder les chiffres de manière statistique, mais regarder ce qu'il y a autour en termes de contexte. On vous a bien compris. Philippe Egertz-Villers, un mot quand même. Vous êtes intervenu au Parlement jurassien pour alerter les autorités, pour savoir aussi si le canton du Jura en faisait assez en matière de prévention. Ces chiffres vous interpellent. Comment vous les expliquez? Les transports publics sont pas assez attractifs, pas assez de répression, pas assez de prévention?
Non, c'est vrai qu'en tant que jurassien, ces chiffres qui ont été donnés m'ont interpellé. Ils m'ont interpellé parce que j'ai un mandat politique et derrière ce mandat politique, il y a des choses qui me surprennent et des choses qui me touchent. C'est vrai que cette tranche d'âge de 18-24 ans, je pense qu'ils ont un rapport à la voiture qui n'est pas la même que des gens qui ont 40 ans ou plus. Avoir une voiture, c'est pour ces jeunes, c'est un style de vie, c'est quelque chose qui est particulier pour eux, c'est une sorte d'échappatoire, c'est un hobby. Et je crois que la prévention que doivent faire les instances, c'est une vraie campagne de répression, mais aussi et surtout une vraie campagne de prévention.
Les polices cantonales, hein, jurassiennes comprises, n'ont pas l'air d'avoir les bras croisés. Elles mettent en avant les contrôles préventifs qu'elles réalisent au bord de la route, l'éducation routière dans les classes, des actions bien sûr dans les écoles et les institutions de formation. Pour vous, ça ne suffit pas?
C'est pas que ça suffise pas. Je crois que la police jurassienne fait du très bon travail à ce niveau-là. Je crois que effectivement les chiffres qui nous sont donnés sont des chiffres qui correspondent en fait à une réalité. Mais je dirais ces statistiques restent des statistiques et je dirais sur le plan humain ou voire sur le plan émotionnel, 5 décès l'année passée dans le Jura, c'est trop et il faut réfléchir à savoir comment est-ce que l'on peut mettre en place des moyens de prévention qui puissent toucher particulièrement les jeunes de 16 à 24 ans.
5 décès, vous l'avez dit, hein, qui mettent pour la plupart en cause ou qui font des victimes parmi les jeunes. Donc il existe des manières de faire de la prévention, d'autres manières que celles dont on a parlé dans les classes, à l'image donc de ce qui s'est fait ces derniers mois à Moutier, avec une douzaine de jeunes conducteurs habitant la Prévôté. Face à la caméra, ils témoignent de leur rapport à la voiture et aux limites de la conduite, les limites au niveau de la sécurité, à travers des entretiens et aussi des expériences qu'ils mènent, tout filmé, et un film qu'on trouve d'ailleurs en ligne sur YouTube qui s'intitule « Survirage ». Voilà, si vous avez envie de le voir. Mais je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
On oublie tout, quoi. On est vraiment dans notre monde, isolé de tout, on pense à plus rien.
Après, c'est l'adrénaline. Et c'est ce sentiment d'évasion, quoi.
C'est... Pour moi, la voiture, c'est beaucoup, quoi. C'est le regard des gens, on va dire que c'est un espèce de style, la voiture, quoi. Ça rembellit en parenthèse notre personnalité, voilà.
À la fin du boulot, ben, c'est du stress, donc on roule beaucoup plus vite et tout. Il y a de la circulation, on s'énerve. Après, quand il y a des bonnes lignes droites, tout ça, ben, parfois on des sprints, puis on remarque même pas, quoi.
Déjà, ben, pour aller au travail, c'est important, parce que sinon je dois prendre le train, c'est un peu compliqué.
On se rend pas compte qu'on a énormément de personnes, de vie en jeu autour de nous. Et qu'au final, ben, notre propre vie à nous et puis celles qui sont autour sont très importantes. Le fait de vouloir s'amuser ou bien de prendre du plaisir à conduire ou simplement faire des tours juste pour notre propre satisfaction personnelle, ben, c'est un peu égoïste.
Michael Kohler, on est frappé par la sincérité de ces témoignages.
Alors oui, effectivement, ces témoignages ont été sont très précieux. Hein, ils ont suivi en fait une chronologie bien précise dans le cadre de notre projet. Comme l'a dit Monsieur Gershuler, en fait, c'est vrai que ce qui était à la base, c'était de questionner le rapport qu'ont les jeunes à la voiture. Et si j'évoquais avant la prise de position qui peut être risquée, hein, de mettre l'accent par les statistiques sur les jeunes, bien que c'est une manière de souligner. Effectivement, il y a des aspects importants là derrière, mais le risque de ça, c'est de stigmatiser une population et de fermer l'accès à cette population. Donc du coup, nous, on a voulu en savoir un peu plus en leur demandant. Mais voilà, vous êtes des passionnés de belle mécanique, vous êtes des passionnés de vitesse. Est-ce qu'on pourrait en parler ensemble, quoi?
Ne pas les considérer forcément comme des chauffards, mais prendre au sérieux leurs paroles. Qu'est-ce que vous avez découvert en termes de résultats? Quelles conclusions on peut en tirer?
Alors, bon, ce qu'on peut en tirer, c'est que au niveau du comportement, c'est très difficile encore aujourd'hui de dire qu'on observe un changement de comportement. Par contre, ce qu'il est certain, c'est qu'il y a une prise de conscience de la part des participants. Sur leur manière de conduire, sur les risques qu'ils prennent et qu'ils font encourir aux autres personnes. Donc cet aspect-là était une réussite vraiment.
Philippe Eggertsviller, vous avez vu le film et ce projet vous inspire, vous aimeriez bien par exemple, pourquoi pas, qu'il ait lieu aussi dans le Jura?
Oui, c'est vraiment un témoignage extraordinaire. Je crois que donner la parole aux jeunes pour parler de ce sujet, c'est la meilleure prévention qu'on peut faire. Pris connaissance, et je remercie M. Kohler de m'avoir transmis en fin de compte ce document. Je vais d'ailleurs en parler au délégué de la jeunesse pour pouvoir voir s'il y a une possibilité de mettre quelque chose en place la même manière qu'a fait la ville de Moutier. Je crois que laisser la parole aux jeunes, c'est leur donner un rôle, et ça, je crois que c'est important. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une meilleure prévention que de laisser la parole aux jeunes s'exprimer. Et puis on parle d'apprentissage par l'expérience, et effectivement je crois que ce qu'ont fait ces jeunes à travers ce reportage, c'est un véritable apprentissage par l'expérience, et cette expérience ils peuvent la transmettre, je dirais, à leur père, à leurs collègues.
Michael Kohler, pour conclure, un projet au long cours qui permet aux jeunes de mettre des mots, hein, sur leur attachement à la voiture, qui leur permet aussi de réfléchir longtemps, de manière intensive sur la question.
Oui, ça c'est vrai que ça permet de mettre des mots, mais alors c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, peut-être bien de le souligner. C'est des jeunes qui sont connus en fait du service depuis bien longtemps. On peut dire qu'il y a un lien de confiance qui s'est établi avec nous-mêmes, enfin qui sommes animateurs socioculturels à la base. On n'est pas du tout des spécialistes de la prévention, Mais disons que, voilà, au cours des discussions que l'on a eues avec eux, il semblait que la prévention routière, la conduite sportive, la conduite à risque, était un facteur, enfin, important à risque, et on a voulu en savoir plus. Donc oui, c'est important de pouvoir de travailler avec les gens qui sont vraiment au contact de cette population.
D'où l'importance des structures intermédiaires comme la vôtre, donc le service de la jeunesse et action communautaire de Moutier, en dehors des familles, en dehors des salles de classe. On vous remercie infiniment, messieurs, d'être venus parler donc sécurité routière et surtout prévention vis-à-vis des jeunes conducteurs. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.
Place publique.
On est de retour dans Place publique avec Gaël Rossi qui nous a rejoint. Gaël, bonsoir.
Salut Gab.
Qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Alors aujourd'hui, un sujet que j'ai trouvé vraiment intéressant, voire philosophique, doit-on pouvoir se soigner dans sa langue maternelle quand on va à l'hôpital ?
Se faire soigner.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Se soigner.
Se faire soigner, c'est mieux, effectivement. Alors moi, j'ai vécu l'expérience quand je suis allé à l'Inselspital à Berne. Du coup, j'ai écrit tout un sketch pour expliquer comment j'expliquais aux médecins ce que je ressentais avec des signes, parce que je parle allemand comme une vache espagnole. Du coup, j'ai écrit tout un sketch burlesque où je fais des grimaces et des pitreries. Et puis, franchement, il était génial. Hein, un hommage à Mr. Bean. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que c'était de la radio. Du coup, je me suis dit, bon, je vais décrire aux auditeurs qui se mettront devant un miroir pour refaire les grimaces que je voulais faire. Comme ça, ils peuvent le faire chez eux et ils pourront se faire rire eux-mêmes. Une sorte de chronique interactive. C'est révolutionnaire ! Alors, j'avais mal à la tête. Hein, alors, devant le médecin, mesdames et messieurs, les auditeurs, tapez-vous sur la tête en tirant la langue sur le côté et en fermant un œil. Vous pouvez même loucher un petit peu. Regardez-vous dans le rétro ou dans une glace. C'est rigolo, hein ? Alors bon, ça c'était la première grimace. Puis ensuite, alors j'ai enchaîné, j'ai fait l'homme qui souffre en montrant les dents, en crispant mon visage, comme ça. Et le médecin a hoché la tête pour dire qu'il avait compris et s'est tapé la tête. Puis il a serré sa tête, puis il m'a montré les différents endroits de sa tête. Alors j'ai tout de suite compris qu'il voulait savoir si ça me faisait mal, si ça tapait ou si ça serrait dans le crâne. Bon, alors il s'est mis un index dans le nez. Là, j'ai pensé que c'était pour me demander si je saignais du nez, je suppose. Ou pas. Enfin, bon. Ouais. Mais quoi, Gab, t'as l'air atterré. Ah, et garde la pause, je vais tenter de la décrire aux auditeurs. Alors, mesdames et messieurs, alors là, Gab me regarde fixement, bouche légèrement ouverte, visage lisse, sourcils relevés, les yeux écarquillés, complètement éberlués. Il est ébahi par mon génie avec cette nouvelle façon de faire de la radio visuelle. Bon, ok, c'est pas pratique, on n'avance pas. C'est vrai que j'ai toujours pas commencé à parler du sujet. Alors, imaginez dans un hôpital quand on vous demande où vous avez mal, ou si vous voulez dire au médecin que vous êtes allergique ou que vous avez une sensation bizarre dans le bras, c'est pas pratique. Alors bon, pour les auditeurs, à part ceux qui m'ont écouté sur l'autoroute et qui grimacent dans le rétro ont fini dans le décor, les autres ont juste perdu leur temps. Hein. Mais à l'hôpital, perdre du temps, ça peut être gênant. Oh puis non, c'est drôle franchement. Ce serait quand même vachement plus rigolo et détendu d'aller à l'hôpital, de voir les médecins et les infirmiers grimacer avec leurs patients, tout le monde choperait des fous rires et rire. C'est la meilleure des thérapies.
Place publique.
Merci, vous nous le prouvez une fois de plus, le rire, ça fait aller mieux. Et surtout le vendredi soir, le bilinguisme est donc source de richesse, parfois de tension, notamment en milieu hospitalier. Difficile pour certains patients francophones donc de se faire soigner dans leur langue à Bienne ou à Berne. Cette semaine, la députation francophone au Grand Conseil bernois a tenté en vain de resserrer les contrôles pour que ça change. L'occasion de s'interroger sur l'importance de la communication entre le patient et les soignants, avec l'exemple notamment de l'hôpital fribourgeois qui promeut le bilinguisme de manière active depuis plusieurs années. Alors deux invités pour en parler. Mohamed Hamdaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député socialiste au Grand Conseil bernois et Gérald Brand, directeur des ressources humaines pour l'hôpital fribourgeois. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Mohamed Hamdaoui, le règlement le prévoit, le bilinguisme doit être respecté dans les hôpitaux publics de Berne et de Bienne, mais apparemment ce n'est pas toujours le cas, selon plusieurs témoignages qui vous ont été rapportés, mais c'est surtout un constat que vous avez tiré vous-même à titre personnel.
Oui, effectivement, moi j'ai eu des différents pépins de santé l'année dernière qui m'ont amené à aller plusieurs reprises à l'hôpital régional de Bienne et aussi parfois faire des sauts à l'hôpital de l'île de Berne. J'ai pu constater malheureusement que même si, il faut le reconnaître, des efforts considérables sont faits, en tout cas à Vienne, je trouve que le principe du bilinguisme est plutôt bien respecté, mais que si l'on ne parle pas un peu l'allemand, un peu mieux qu'une bâche espagnole, comme disait votre humoriste tout à l'heure, c'est pas toujours facile de se faire comprendre.
Et le mime ne suffit pas.
Et le mime ne suffit pas. Et voilà, la raison, elle est connue. On sait qu'en Suisse, il y a une pénurie de médecins, de personnel para-hospitalier, mais que naturellement, il y a des personnes qui viennent de l'étranger pour occuper ces postes-là, ce qui est une chose fantastique. Je ne remets naturellement pas ça du tout en cause. Mais simplement, ça peut poser des problèmes au niveau linguistique. Et c'est évident que lorsqu'on va à l'hôpital, on n'y va pas de gaieté de cœur. On est parfois dans une situation de détresse. Et quand on est dans une situation de détresse, on préfère avoir la possibilité de s'adresser à une personne qui parle ou qui comprend votre langue plutôt que se retrouver dans une situation où effectivement, vous devez faire du mime.
Pourquoi est-ce si important de pouvoir parler sa langue? Pierre-Alain Schneck, le ministre bernois de la Santé, vous rétorque que le plus important, c'est d'être soigné, hein, point à la ligne, par un bon médecin, avant de savoir s'il parle français ou allemand.
Bon, je ne veux pas polémiquer, mais si une loi existe et qu'on constate qu'elle n'est pas appliquée, pour moi, la question de base, c'est qu'il faut trouver les moyens de faire en sorte que cette loi s'applique. C'est déjà une question de principe. Mais d'autre part, c'est une évidence, me semble-t-il, claire, que si on peut se faire comprendre dans sa langue lors de ce qu'on a besoin d'un traitement, ben, les résultats des cours, c'est quoi? C'est que le traitement en général, il est plus efficace, il est plus court, il coûte moins cher, et je pense que finalement, ce qu'on a peut-être dépensé pour promouvoir le bilinguisme, on le gagne aussi un tout petit peu au niveau des coûts de la santé.
Comme Berne, Fribourg est un canton bilingue de longue date, sauf que la minorité n'est pas francophone mais alémanique. Gérald Brand, on imagine que vous partagez ce point de vue, puisque vous avez donc ce point de vue de la nécessité du bilinguisme en milieu hospitalier, puisque vous avez à l'hôpital fribourgeois précisément mis en place plusieurs mesures pour favoriser une telle communication.
Alors effectivement, je pense que le témoignage de M. Hamdaoui est tout à fait révélateur. Nous, on le vit peut-être dans l'autre sens. La communication est essentielle dans la relation entre le patient et le soignant ou le médecin. Pour l'hôpital fribourgeois, on a pris cette question très au sérieux il y a de cela 4 ans maintenant, principalement, notamment suite à la fermeture temporaire du site de Mérier, qui est un site bilingue, ou plutôt de la partie germanophone du canton. On a mis en place des mesures principalement orientées sur le recrutement, sur la formation et sur l'organisation également des équipes.
Alors plusieurs mesures, si on les détaille un peu, hein, elles sont intéressantes parce qu'elles sont peut-être, elles peuvent apparaître comme étant très simples. Il y a des badges que porte le personnel médical qui indiquent quelle langue il parle, ou bien des bracelets qu'on met aux patients pour savoir aussi quelle langue il parle, peut-être plus élaborés, des cours de langue, des ateliers pour le personnel médical. En gros, il y a beaucoup de mesures, des plus simples aux plus compliquées.
Alors effectivement, très souvent ça commence par de petites choses. On a commencé à mettre en place l'identification des patients par des bracelets de couleurs différentes, ce qui permet au personnel soignant de rapidement identifier la langue maternelle ou principale du patient. On a également mis en place des cours de langue tout simples, axés sur la pratique professionnelle, avec des expressions qui permettent d'entrer en relation avec le patient, principalement de langue maternelle germanophone. On a également mis en place des tandems, des échanges entre les différents sites, puisque la particularité de l'hôpital fribourgeois, c'est d'être réparti sur 5 sites, dont 2 dans des districts germanophones, et les collaborateurs peuvent échanger les pratiques entre ces différents sites. Donc ça contribue également à une meilleure compréhension des besoins réciproques. Ça permet également de mieux comprendre les besoins des patients et de cette façon-là de contribuer également à l'amélioration de la santé et de la qualité des prestations.
Mohamed Hamdaoui, vous l'entendez, ça passe par des petites choses, je pense que vous vous en rendez compte. Jusqu'où vont vos revendications, même si elles n'ont pas forcément été entendues au Grand Conseil? Jusqu'où aller dans le bilinguisme?
Moi, je crois que la question de base, c'est véritablement de faire en sorte que dans les deux principaux hôpitaux du canton de Berne, celui de Vienne et celui de Berne, de l'hôpital de Lille, qui sont tout de même des hôpitaux publics financés entièrement par le canton, par la Confédération, et bien que dans ces hôpitaux-là, le principe du bilinguisme soit appliqué. À Vienne, très honnêtement, il faut le dire, il est plutôt bien appliqué. D'ailleurs, l'hôpital régional avait obtenu le prix du bilinguisme qui avait été attribué par le forum du même nom. Ça montre que les choses se passent plutôt bien. Mais nous, notre rôle, c'est aussi de faire pression pour ne pas baisser la garde. Pas qu'on vienne justement dire qu'on banalise un peu le discours
qui a été utilisé par le ministre de la Santé et des Affaires Sociales du canton, M. Steck, c'est de dire que finalement, c'est pas si important que ça, que l'important, c'est d'être soigné. Ça, c'est une banalité de dire que l'important, c'est d'être soigné. Mais tant qu'à faire, lorsqu'on vit dans un canton bilingue et qu'on prétend défendre ce bilinguisme, il faut qu'il soit appliqué dans un endroit aussi important que celui-là, au même titre que dans l'administration. Malheureusement, on constate, alors là, bien, on le constate de manière parfois dramatique, que ce bilinguisme, il est à sens unique ou qui ne fonctionne pas véritablement, ou aussi, par exemple, ça va être de plus en plus difficile pour des jeunes francophones de trouver des places d'apprentissage au sein même de l'administration.
Donc ça dépasse le contexte hospitalier.
Ça dépasse le cadre, mais c'est peut-être plus dramatique, plus sensible dans le cadre hospitalier, où il faut le répéter, le patient, lorsqu'il arrive là, il va pas, lorsqu'on va à l'hôpital dans son sac à dos, qu'est-ce qu'on prend? On prend des choses de base, on prend des sous-vêtements, une brosse à dents, on n'a pas le réflexe de prendre un doudoune avec soi.
C'est vrai.
Donc, on a la possibilité de se faire comprendre.
Une question que je pose à tous les deux, avec le libre choix de l'hôpital prévu par la LAMAL, la concentration des soins aussi, est-ce que ce n'est pas finalement un mouvement naturel qui va s'exercer? Est-ce que vos revendications ne vont pas naturellement être exaucées? L'hôpital universitaire de Lille, à Berne, accueille déjà passablement de Neuchâtelois, par exemple. Mohamed Abdaoui.
Oui. Et moi, je suis pas partisan hystérique de libre choix de l'hôpital, premièrement. Mais deuxièmement, la question pour moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des garanties. Le libre choix de l'hôpital, c'est un petit peu une question d'offre et de demande. Alors, pour l'instant, effectivement, on peut imaginer que des nouveaux médecins neuchâtelois préféreront aller là plutôt que d'aller au médecin à l'hôpital régional de la Chaux-de-Fonds, qui pour l'instant n'est pas particulièrement attrayant, visiblement.
Mais des prestations extrêmement délicates ou aiguës, c'est déjà le cas. Les neuchâtelois vont à Berne. On peut imaginer que ce mouvement va s'accentuer.
Ça, sans problème, c'est simplement, je trouve qu'effectivement, je reviens à la question de base, que lorsqu'on est dans un canton bilingue comme Berne, c'est le cas de Fribourg, j'imagine, je ne sais pas quelle est la situation, il y a des règles également assez strictes dans le canton du Valais, mais que ce bilinguisme doit pouvoir s'être appliqué là, indépendamment du système de la santé qui est mis en place.
Gérald Brand, votre avis sur la question, est-ce que le bilinguisme que vous avez mis en place de manière très active depuis 4 ans n'est pas finalement une donnée qui va devoir être appliquée par la plupart des hôpitaux en Suisse, en tout cas pour les cantons bilingues?
Alors pour les cantons bilingues, à mon avis, c'est certainement une nécessité. On doit répondre aux besoins de la population avec un taux de 29% de germanophones dans le canton de Fribourg. C'est clair qu'on est naturellement orienté envers cette demande. Au-delà du bilinguisme, on peut parler du plurilinguisme, bien entendu, avec l'évolution de la population. Mais en tous les cas, au niveau de l'hôpital fribourgeois, nous avons mis en place des mesures qui, à notre avis, permettent justement de répondre aux besoins de la population, notamment de tenir compte de la minorité germanophone.
Avec la pénurie du personnel médical, la peine à recruter ici en Suisse, est-ce que cette volonté déjà d'instaurer le bilinguisme n'est pas un vœu pieux?
Non, certainement pas. Et il faut s'entendre de ce à quoi on entend par bilinguisme. Bilinguisme ne veut pas forcément dire bilingue, mais de constituer des équipes qui sont à même de pouvoir répondre dans la langue maternelle du patient, dans la langue courante du patient. Si on voulait recruter partout en Suisse du personnel bilingue, ce serait extrêmement difficile, d'autant plus dans le domaine de la santé, puisqu'effectivement il y a une certaine pénurie, mais c'est de pouvoir constituer des équipes qui puissent répondre justement aux besoins de la population.
Pour conclure, Mohamed Amdaoui, est-ce que vous voyez une brèche dans laquelle vous engouffrez pour tenter d'obtenir gain de cause, pour que le bilinguisme soit un peu plus une réalité? Est-ce qu'au niveau au niveau politique, vous voyez une intervention possible ou une suite à donner au débat de cette semaine?
Je crois qu'il faut continuer à faire pression. Moi, j'ai été surpris de voir les nombreuses réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux de personnes qui se sont plaintes. Alors, les réseaux sociaux, malheureusement, c'est souvent des gens qui se plaignent, qui les utilisent. Mais pour effectivement faire comprendre que ce bilinguisme-là, on y tient, il faut que ce bilinguisme, dans l'idéal, se passe par la volonté des gens et pas de manière contraignante. Mais c'est clair que si on devait constater que malgré nos appels à respecter ce bilinguisme-là, ce principe n'était pas appliqué, il faudra prendre des mesures de contrainte ou autrement proposer des mesures de contrainte qui seraient véritablement dommageables. Moi, je pars du principe qu'une loi, c'est toujours un échec.
Mohamed Amdaoui, on va se quitter avec cette parole. Député socialiste au Grand Conseil bernois, merci d'avoir été avec nous. Et Gérald Brand, merci aussi d'avoir rejoint Place Publique. Vous dirigez les ressources humaines pour l'hôpital fribourgeois. Bonne soirée à tous les deux.
Bonne soirée.
Place Publique.
La mer ne fournit pas seulement les poissons et les crustacés qui régalent nos papilles. La mer ne fournit pas seulement le pétrole qui fait avancer nos voitures. La mer renferme aussi de nombreuses ressources génétiques qui intéressent fortement les secteurs pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires, pour ne parler que d'eux. Et qui dit intérêt économique dit argent. Et qui dit argent dit le plus souvent anarchie si aucune règle ne vient mettre un peu d'ordre. Et en matière de ressources génétiques, il n'y a pour l'heure aucune loi apparemment qui régule l'exploitation des hautes mers, soit au-delà de 350 km au large des côtes. Raison pour laquelle des discussions se sont ouvertes cette semaine à New York, sous l'égide des Nations Unies. Durant 15 jours, quelques 196 États vont tenter de se mettre d'accord en vue d'un traité qui pourrait permettre de régir l'exploitation donc de ces ressources génétiques marines. Pour en parler, on a le plaisir de recevoir Valérie Wiesbrot, doctorante en droit à l'Université de Neuchâtel, sur le point de déposer sa thèse, précisément consacrée à cette question. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pour bien comprendre l'enjeu, qu'est-ce qui fait que ces ressources génétiques sont tant convoitées et pourquoi leur exploitation pose problème à l'heure actuelle ?
Alors, ces ressources ont un potentiel pour la société qui est absolument énorme. Elles permettent de créer de nombreux nouveaux produits. Des recherches sont effectuées dans le domaine de la pharmaceutique, en particulier la recherche pour lutter contre des cancers, pour créer des antidouleurs, pour les greffes, pour la régénération des os. Mais comme vous l'avez dit aussi, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des cosmétiques et aussi dans le domaine de la bioremédiation. Et ces ressources posent problème dans la mesure où elles représentent également un grand potentiel économique. Par conséquent, vu le nombre de produits qu'il est possible de développer, et donc les pays ne sont pas tout à fait d'accord sur le droit applicable à ces ressources.
Ça veut dire que les fonds marins abritent des formes de vie ou des formes d'organismes dont l'homme espère et va pouvoir tirer profit, par exemple.
Par exemple, on trouve déjà des produits qui sont développés, donc des anticancéreux par exemple, qui sont développés à partir d'éponges marines qui contiennent des produits très intéressants, très spécifiques qu'on ne trouve pas dans des animaux sur la terre ferme.
Des organismes aussi qui apparemment vivent selon d'autres règles que celles auxquelles on était habitués, hein, non pas la photosynthèse, mais la chimiosynthèse.
Oui, alors on a découvert à la fin des années 70 les cheminées hydrothermales. Et ces cheminées hydrothermales se trouvent au fin fond des océans, à des milliers de profondeur. Et c'est des endroits où la lumière n'arrive pas. Et on a découvert que certains de ces organismes fonctionnaient donc sur la chimiosynthèse et se nourrissaient non pas grâce à la lumière du soleil, mais grâce aux gaz qui sortent du sol. Et donc, ça offre de grandes possibilités pour de développement de nouveaux produits.
On devine, avec ce que vous nous dites, les potentiels. Alors, on entend parler des périls de la surpêche, des pollutions aux hydrocarbures et plus que jamais de la pollution des océans par le plastique. Est-ce que les discussions dont on parle à New York doivent aussi pouvoir régler ces problèmes ? Est-ce que ça concerne aussi les ressources génétiques marines ?
Donc les discussions actuellement en cours concernent les ressources génétiques marines. Donc indirectement, elles pourraient régler un certain nombre de problèmes, par exemple les pollutions des plastiques. Donc on sait que le plastique aujourd'hui est créé à base de pétrole et de ce fait, il n'est pas biodégradable. Dans un futur, on devrait pouvoir développer des plastiques biodégradables à la base de bactéries marines et donc on éviterait le problème qu'on a aujourd'hui avec le pétrole. Donc indirectement, ça pourrait aider à résoudre ce genre de problème.
Apparemment, on peut régler beaucoup de problèmes si on va chercher et explorer les fonds marins. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le traité qui est peut-être en train de voir le jour avec ces discussions à New York doit plutôt encourager la recherche, à peine l'ordonner, ou ce sera plutôt un texte très contraignant ? Quel type de traité on va voir aboutir ?
C'est très, très difficile à dire aujourd'hui de savoir si le traité sera très contraignant ou peu contraignant. Ça dépend jusqu'à quel point les États arrivent à se mettre d'accord. si les États ont d'énormes contentieux, on aura plutôt un traité qui sera assez vague, assez lacunaire. Et si les États arrivent à se mettre d'accord sur certains points, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus fort. Après, ce qui va déterminer le fait que le traité sera fort ou pas, ça sera aussi le nombre d'États qui vont ensuite signer et surtout ratifier le traité.
On voit combien c'est difficile pour les questions climatiques, terrestres, de se mettre d'accord avec les émissions de gaz à effet de serre, surtout que le réchauffement est remis en cause par les grandes puissances. On retient les déclarations de Trump et de Poutine à ce sujet. Est-ce qu'on peut croire en la faculté des États de se mettre d'accord pour des questions qui concernent les fonds marins ?
Alors oui, parce qu'il y a une volonté quand même assez générale de faire avancer les choses, tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Maintenant, comme vous venez de le dire, il y a ce problème des États-Unis et de la Russie qui sont aussi les États qui sont relativement frileux, voire pas tout à fait, pas très motivés à faire avancer la situation également dans le domaine des océans et des ressources génétiques marines. Donc comme il s'agit de grandes puissances et de grandes puissances politiques et économiques, ça pourrait faire bloquer le processus en fait.
Alors si le processus est bloqué, s'il n'y a pas d'accord, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour faire finalement respecter certaines règles au-delà des traités internationaux ? Est-ce qu'on peut agir avec d'autres leviers ?
Oui, alors il existe d'autres moyens pour agir que les traités, donc le hard law. Il y a tout d'abord la possibilité d'agir par le biais de soft law.
Donc les lois douces.
Voilà, c'est ça. Ce sont des règles qui sont non obligatoires, qui représentent plutôt des recommandations. Elles peuvent émaner des États, mais également d'organisations internationales. Je peux vous donner par exemple les résolutions de l'ONU. On en trouve aussi beaucoup dans le domaine de l'environnement, par exemple des codes de conduite ou des lignes directrices. On trouve par exemple le code de conduite pour une pêche responsable.
Ça favorise une prise de conscience, quitte à après aboutir à un texte plus contraignant.
Voilà, exactement. Ça peut servir d'alternative, mais ça peut aussi servir de déclencheur.
Et au niveau du privé, là on parle des États, on parle de la politique, est-ce qu'au niveau des entreprises, des consommateurs, il y a quelque chose à faire ?
Oui, alors les entreprises ont aussi la possibilité d'agir, c'est-à-dire que ce serait tout à fait possible de développer un écolabel qui permette de protéger ou d'encourager la protection de ces ressources génétiques marines. Et par là, les consommateurs auraient un moyen de pression car ils pourraient faire le choix des produits en fait, qui sont respectueux des océans ou en tout cas qui encouragent la préservation de ceux-ci.
Valérie Wiesbrod, comment ça se fait qu'une Suissesse comme vous se soit penchée sur cette question qui concerne quand même une réalité lointaine ? Nous ne sommes pas bordés par la mer ni par l'océan. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher dans cette direction ?
Oui, alors effectivement, ça peut paraître un peu bizarre. Quand j'ai commencé le droit, j'ai tout de suite été intéressée par le domaine des biotechnologies. Et quand j'ai décidé de faire une thèse de doctorat, j'ai un petit peu cherché dans les différents domaines quelles étaient les possibilités. Et je suis tombée sur cette problématique des ressources génétiques marines. Et ça m'a tout de suite parlé, car je fais de la plongée depuis une vingtaine d'années. Et par conséquent, je vois tout ce qu'on trouve au fond des océans et quel potentiel ça pourrait avoir pour la société et les raisons pour lesquelles il faudrait aussi protéger tout ça.
Et votre thèse, vous l'avez aussi présentée lors de deux concours dont on a parlé sur RTN, qui sont Ma thèse en 180 secondes. Vous l'avez fait à deux reprises. Ça peut aussi aider nos auditeurs à découvrir encore plus avant ce à quoi vous consacrez vos recherches. Merci beaucoup Valérie Wiesbrod de nous avoir rejoint dans Place Publique. On va suivre attentivement ces discussions qui se passent à New York et on ne manquera pas de vous réinviter à l'occasion. Bonne soirée.
Merci de même.
C'est tout pour Place Publique. On remercie bien sûr tous nos invités. On remercie aussi Yannick Frossard pour la réalisation. Vous retrouvez cette émission sur nos applications ou sur nos sites internet RJB, RTN, RFJ.ch. Je vous souhaite bien entendu un bon week-end et je me réjouis de vous retrouver d'ores et déjà vendredi prochain.
Place Publique.